bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Mounia Van de Castel, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Éléonore Richard. À la réalisation Marie Placé, prise de son Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besri.
Troisième jour de notre série consacrée à l'économie du sport. Hier, nous avons comparé les évolutions du domaine sportif à celles du capitalisme. Et si tout un pan de l'économie du sport se développe désormais dans un système dérégulé et mondialisé, on ne peut oublier que l'histoire du sport fait aussi de lui un bien commun. En effet, le sport existe bien au-delà du cadre des entreprises qui entourent son commerce. Facteur de santé et de lien entre les individus, il est l'objet de politiques publiques tant éducatives que sociales. C'est donc en funambule que nous interrogeons aujourd'hui ce carrefour étroit, cet équilibre instable entre impact économique et rentabilité sociale qui caractérise le sport. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Pour parler du sport comme bien commun, nous recevons aujourd'hui Marina Honta, professeure de sociologie de l'action publique à l'Université de Bordeaux, chercheur au Centre Émile Durkheim et également auteur de « Gouverner le sport », action publique et territoire aux presses universitaires de Grenoble. Également avec nous, Jean-Pascal Gaillan, professeur d'économie à l'Université du Mans et auteur de « L'économie du sport » aux éditions Duno. À 14h50, Mounia Van de Castel sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Marina Honta et Jean-Pascal Gaillan, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors peut-être dire quelque chose qui est peut-être une évidence, mais qui mérite quand même d'être explicité. Quelle différence on ferait en termes justement de bien entre la pratique du sport loisir et le sport professionnel ?
Alors, le sport professionnel, c'est un spectacle sportif, c'est un bien privé, fondamentalement. Il n'y a pas les déterminants de ce que l'on appelle les biens publics en économie. Il y a la rivalité, il y a l'exclusion par l'usage, et il n'y a pas d'obligation d'usage. Donc, c'est un bien privé, a priori.
Revenez sur chacun de ces points. Il y a la rivalité.
Oui, il y a la rivalité. Si vous êtes, il y a un match avec 50 000 places dans le studio, dans le stade.
Dans le studio, c'est beaucoup, mais dans le stade, c'est difficile. Possible.
50 000 places dans le stade. Si le stade est déjà plein et vous voulez assister au match, bien vous ne pouvez pas parce que les spectateurs sont rivaux pour la consommation du spectacle sportif. Après, il n'y a pas l'exclusion par l'usage. Enfin, pardon, il y a l'exclusion par l'usage, contrairement au bien public. Donc, une fois que vous utilisez, vous êtes dans le stade et que vous consommez, eh bien, vous avez exclu tous ceux qui n'y sont pas. On est très proche de la rivalité.
C'est une offre limitée,
voilà.
En quelque sorte.
Et puis, il n'y a pas d'obligation d'usage. Vous n'êtes pas obligé de consommer le football à la télévision. Vous pouvez regarder de l'opéra. Donc, vous êtes dans le cadre d'un bien privé, a priori. Alors, c'est très différent du sport-loisir, parce que le sport-loisir est bon pour la santé. La santé est un bien public à bien des égards. En tout cas, c'est pas un bien rival, la santé. Si vous êtes en bonne santé, ça ne va pas nuire à la bonne santé de votre voisin, même mieux. Si vous êtes en bonne santé, c'est favorable à la santé de votre voisin, parce que, par exemple, si vous êtes vous avez une maladie contagieuse, vous allez nuire à la santé de votre voisin. Donc, être en bonne santé ne nuit jamais, ce n'est pas un bien rival. Donc, il y a vraiment cette différence qui existe entre le spectacle sportif, qui a priori est un bien privé, et la pratique du sport loisir, qui est plutôt un bien public. Alors, c'est pas tout à fait un bien public, mais qui est plus proche du bien public. Néanmoins, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, je mettrai une nuance à l'idée que le spectacle sportif est un pur bien privé.
Alors, il y a des zones dans lesquelles les deux domaines se recoupent, mais quand on distingue les deux, on va peut-être rester sur cette deuxième catégorie dont on n'a pas encore parlé, le bien commun, le bien public. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, les bénéfices pour la santé, on comprend. On comprend aussi que le sport a toujours fait l'objet de politiques publiques. Peut-être, Marina Honta, cette idée de bien commun, vous pouvez nous l'expliciter ?
Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, et pour répondre à votre question aussi, si l'on se situe strictement sur le plan législatif et réglementaire en France en matière de politique publique, le modèle qui est le nôtre aujourd'hui promeut un développement et une promotion du sport, de tous les sports en France, et en particulier cette promotion se fait par les pouvoirs publics.
Donc il n'y aurait pas d'hierarchie entre les sports ?
Alors, sur le plan législatif, Il n'y a pas de hiérarchie entre les sports. Par contre, ce sont les modalités d'intervention de la puissance publique, de l'État et des collectivités territoriales, qui peuvent, ces modalités, différer en fonction du sport dont on parle. Pour revenir sur le sport professionnel, par exemple, et le spectacle sportif, l'État a ici, par exemple en France, un rôle plutôt de régulateur de ce sport professionnel. Et les collectivités territoriales, parce qu'elles y voient dans le sport professionnel un bien commun territorial, peuvent participer pleinement au développement du sport professionnel par la construction des stades, des gymnases ou des arénas comme on les appelle maintenant, ces espaces de pratique, par l'attribution de subventions aux clubs professionnels, parce que bien qu'on se situe là dans le champ du spectacle sportif, elles peuvent, ces autorités publiques, considérer le sport professionnel comme un bien commun. Et bien évidemment, pour ce qui relève de la pratique sportive pour le plus grand nombre, les pouvoirs publics, là encore, et toujours pareil, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités territoriales, ont assigné à la pratique sportive des finalités sociales, vous l'avez dit en introduction, éducatives et aujourd'hui de plus en plus de santé publique.
Alors voilà. Peut-être on va, avant de revenir sur chacun de ces points, se dire que finalement ce projet autour du sport, il recouvre beaucoup de domaines et toute une idéologie aussi, des représentations, on le sait, en sociologie. On va peut-être écouter Benoît Hamon, candidat alors à l'élection présidentielle, qui lui avait un projet concernant le sport en matière de santé.
J'observe aujourd'hui que la pratique de l'activité physique, même légère, elle évite des maladies chroniques. Mais que dans le domaine du sport santé, nous en restons au balbutiement de ce qui devrait être la préconisation par les médecins de l'activité physique pour éviter de tomber malade. Moi, je souhaite, par exemple, de manière très concrète, que demain, le sport puisse être remboursé par la Sécurité sociale quand un médecin considère que pour éviter certaines maladies chroniques, certains diabètes, certains cancers, l'activité physique est jugée comme un moyen de prévenir ces maladies. On sait aujourd'hui, alors il y a moult documentation, que non seulement l'activité physique pour les personnes âgées ou les personnes dépendantes est utile et améliore leur santé, tout simplement, mais on sait surtout que cette activité physique légère, par exemple, évite la récidive de cancer du sein. Eh bien, il faudrait que dans ce domaine-là, nous puissions avoir la reconnaissance du fait que le sport est utile pour prévenir des maladies, donc, est bon pour la santé. Je veux donc mettre en place un grand plan sport santé. Qu'est-ce que ce sera, ce plan sport santé? Outre le fait que la Sécurité sociale puisse, sur la base d'une prescription d'un médecin, rembourser de l'activité physique, même légère, quand elle est préconisée comme un moyen de prévenir les maladies, au passage, ça nous évitera d'être malade, donc ça coûtera moins cher à la Sécurité sociale, je souhaite que, de l'école jusqu'à la fin de vie, nous ayons un programme de sport santé qui repose sur quoi ? Sur le fait qu'on ait une vraie culture de l'activité sportive.
Alors, plusieurs choses dans ce programme de Benoît Hamon. Il renoue quand même avec une tradition politique qui met le sport un peu au centre, à la fois comme une question micro, à savoir on s'intéresse à l'individu, à sa santé, mais aussi comme une question macro, universelle, autour du sport. Jean-Pascal Gaillan.
Oui, alors moi ce qui me frappe, mais vous ne serez pas surpris, c'est que en Angleterre, on a eu un peu le même genre d'attitude. Et il y avait juste une petite différence, c'est que les patients pouvaient être sanctionnés si, dans le cadre de ce que leur prescrivait le médecin, ils ne respectaient pas une activité, la volonté, l'effort de pratiquer plus de sport pour avoir moins de maladies cardiovasculaires, pour maigrir, pour avoir moins de diabète. Et donc c'était plutôt le non-remboursement des soins s'ils n'acceptaient pas le programme qui leur avait été imposé. Bon, ça c'est une petite...
Incitatif préventif.
Voilà, je suis pas sûr de partager avec Benoît Hamon sa vision, je serais peut-être plutôt plus proche de ce que font les Anglais là-dessus, ou peut-être un compromis, disons, serait souhaitable. Mais donc, oui, il y a évidemment, et ça tout le monde a raison de le dire, le sport, la pratique du sport loisir, c'est vraiment bon pour la santé, c'est bon pour les finances publiques. Il a parlé du cancer du sein, on peut parler aussi du cancer colorectal, de différer l'état d'entrée en dépendance. Donc effectivement, la puissance publique a intérêt pour le bien-être du citoyen de manière incontestable à encourager la pratique sportive. Alors simplement, ce qu'il faut peut-être préciser, mais je pense que ma collègue sociologue sera peut-être plus qualifiée que moi pour en parler, c'est que on pense toujours, quand il s'agit de la pratique sportive, on va penser aux différents sports qui ont un petit aspect compétition, même si c'est du loisir. Ce à quoi on pense peut-être moins, mais qui est peut-être beaucoup plus efficace, c'est par exemple accompagner dans les quartiers difficiles les gens dans de la marche, de la promenade, de la petite randonnée, hein, aider les gens à faire l'effort d'aller simplement faire cet exercice minimum. Mais alors je crois qu'il y a une expérience à Strasbourg qui est une expérience extrêmement intéressante où on a développé alors il y a une association qui faisait ça, elle a été aidée pour aider les gens qui étaient trop sédentaires dans des quartiers pas faciles à marcher tout simplement. Donc ça créait du lien social et ça permettait aux gens d'être en meilleure santé. Et c'est peut-être finalement là que la priorité devrait être. Après effectivement toute la pratique de tout sport va être bénéfique sous réserve qu'il n'y ait pas d'excès, parce que là aussi, on pourra y revenir, il peut y avoir de la forme de dépendance et aussi une certaine nocivité dans la relation familiale, par exemple. Mais effectivement, il y a des effets externes positifs, évidents, et c'est très bénéfique pour la santé des gens et les finances publiques.
Marina Honta, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect ? Alors, au niveau micro, voilà, c'est la question de l'individu, mais aussi tout ce lien social autour du sport qui en fait une affaire publique dont on parle moins, et donc à côté des histoires de sport et des multinationales et des choses commerciales que l'on connaît, du sport globalisé, international et des compétitions, il y a cette question publique.
Oui, il y a cette question publique et je dirais que pour la promotion de la pratique sportive pour le plus grand nombre, quelles que soient les finalités adossées, éducatives, sociales ou de santé publique, cette participation de la puissance publique, elle est indispensable. Elle est indispensable parce qu'elle est à l'origine, sinon de la démocratisation du sport, au moins de la massification des effectifs des pratiquants et du fait de pouvoir proposer, que ce soit dans le cadre de l'école, dès le plus jeune âge, la présence et la mise en place localement de dispositifs d'animation, d'ateliers, de découverte ou d'initiation à la pratique sportive pour une diversité de plus en plus forte de publics aujourd'hui, en passant des jeunes vers les personnes avançant en âge, ciblant également les femmes, les personnes en recherche d'emploi. Les formes de mobilisation de la puissance publique pour promouvoir et développer la pratique sportive pour toutes et tous sont indispensables, et elles passent aussi par des politiques plutôt volontariste, même s'il y aurait des choses à dire là-dessus, de construction, réhabilitation, rénovation d'équipements sportifs, d'espaces et de sites de pratique. Et là encore, le rôle de la puissance publique est substantiel.
Alors là, c'est le bon côté de la médaille. Peut-être qu'on pourrait aussi se dire qu'historiquement, on a appris à se méfier aussi du sport utilisé par les pouvoirs publics, oui. À savoir, est-ce que le sport, c'était pas celui qui finalement maintenait en forme ceux qui vont devoir aller se battre, ou ceux qui vont devoir accomplir des tâches difficiles à l'usine? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire du sport, du travail et de la guerre?
Moi, Jean-Pascal Gaillon. Je suis pas un spécialiste de l'histoire du sport, mais c'est vrai que au départ, la première préconisation de faire du sport, et en particulier dès la fin du 19e siècle, c'était plutôt pour que les ouvriers dans les usines soient en bonne santé pour être productifs. Donc il y avait une vision des choses qui n'était pas tout à fait celle qu'on a aujourd'hui. C'était une vision très productiviste et un peu il y avait une forme d'utilisation du sport pour le profit, tout simplement.
Alors, utilisation des moyens de production.
Voilà, c'est ça.
Les forces de production.
Voilà, on est dans cette idée. Les choses ont quand même évolué et je crois que là, et je rejoins complètement ma collègue, le sport ayant une dimension de bien public, il est évidemment naturel que la puissance publique participe à son financement, participe à sa fourniture. Ça, c'est un point que nul économiste ne songera à contredire. Donc, en effet, finalement, l'histoire est un peu moins linéaire que ce qu'on pourrait imaginer. Dans ce qu'est le sport, ce qu'il a représenté dans les sociétés. Et c'est finalement de manière assez récente que l'on perçoit le sport comme un bien public ou un bien commun. Dans ce registre, bien effectivement, maintenant, tout le monde s'entend sur l'idée que les collectivités doivent y participer. Mais comme vous le disiez, il peut y avoir un conflit entre l'argent qui va être dédié au sport loisir et puis l'argent dédié au sport spectacle.
Alors la question se pose de savoir justement quelle politique publique et quel sport. Vous avez parlé d'un premier rôle, Marina Honta, des politiques publiques, qui a été de démocratiser ou de tenter de démocratiser, oui, l'accès au moins au sport. Est-ce que ça a été vraiment une réussite, cette démocratisation ? Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Au moment où nous nous parlons, toutes les enquêtes montrent que cette démocratisation de l'accès au sport est à l'heure actuelle inaboutie. Elle n'existe pas. Même si, depuis les années 60-70, le nombre de Français qui déclarent pratiquer un ou plusieurs sports augmente par la féminisation de la pratique, par l'allongement
de la durée de vie,
par le fait qu'on pratique aussi de plus en plus jeune et de plus en plus tôt. Tout ceci participe de l'augmentation des effectifs de pratiquants, mais néanmoins, certaines catégories sociales pratiquent encore moins, enfin les catégories sociales les plus basses, on va le dire ainsi, pratiquent moins que les professions et catégories sociales les plus élevées.
Mais ça, c'est un problème qui existe depuis les débuts du sport.
Voilà,
ce ne sont pas les mêmes sports qui se sont développés dans tous les milieux sociaux, pas les mêmes pratiques. On a entendu justement qu'il y avait une différence entre, d'un côté, l'histoire des gentlemen farmers et celle des collèges anglais. Alors, qu'y a-t-il de nouveau, finalement, derrière cette question-là du sport ?
De nouveau, sur cet aspect-là, pas grand-chose. Si ce n'est peut-être qu'aujourd'hui, lorsqu'on essaie d'analyser les conditions sociales qui expliquent le fait que cette démocratisation du sport ne soit pas aboutie, on regarde peut-être un petit peu plus qu'avant. Si vous voulez, avant, l'attention portait ou se portait beaucoup plus sur l'habitus de classe, l'appartenance sociale. Aujourd'hui, on regarde aussi peut-être un peu plus finement ou dans le détail les conditions locales, institutionnelles et organisationnelles qui pourraient expliquer que l'endroit où l'on habite et l'offre locale de pratiques sportives fabriquent là aussi cette offre organisationnelle et institutionnelle des inégalités et des disparités d'accès à la pratique sportive.
Donc pour parler simplement, le sport et le territoire, c'est-à-dire selon la répartition des clubs, des infrastructures.
Oui, de l'accessibilité à ces infrastructures, de la nature de ces infrastructures, à qui sont-elles dédiées, à qui sont-elles ouvertes, comprennent-elles ou contiennent-elles les conditions d'accessibilité, notamment aux personnes en situation de handicap, comme la loi du 11 février 2005 l'implique ou l'exige ou le demande. L'offre locale de pratiques sportives telle qu'elle est proposée par les clubs, les associations sportives, telle qu'elle peut être proposée aussi par tous les prestataires marchands de services sportifs, cette offre locale-là, qu'elle passe par la prestation ou par la présence et l'accessibilité des équipements sportifs, cette offre-là reste très disparate d'une partie du territoire à l'autre.
Jean-Pascal Gaillon, on se retrouve face à notre sujet du début, à savoir est-ce que le sport ne serait pas, alors qu'on le pense universel, un miroir des inégalités, et est-ce qu'il n'y aurait pas, à côté des politiques publiques, cette offre privée, y compris sportive, qui vient concurrencer et donc finalement mettre en concurrence des acteurs qui sont inégaux.
Alors, on a envie de répondre oui, mais la réalité me semble un peu plus complexe. Je prends l'exemple du Mans, puisque c'est une ville que je connais bien. Le Mans est une grande ville de basket. C'est une ville avec l'équipe professionnelle, qui a été championne de France à plusieurs reprises et qui est toujours dans le haut du panier. Eh bien, au Mans, tout le monde joue au basket, de tous les milieux sociaux. On voit tous les mercredis après-midi, tous les samedis, dans tous les gymnases possibles et imaginables, il y a du basket partout. Et c'est vraiment tous les gamins de tous les milieux sociaux. Et la culture basket est très forte et elle est très forte aussi pour amener à la pratique sportive des enfants de tous les milieux sociaux et même ensemble. C'est assez amusant parce que ça n'est pas vrai dans tous les sports. Hein, je pense que quand on va voir des jeunes jouer au tennis le mercredi après-midi ou le samedi après-midi, on n'a pas du tout la même diversité sociale sur les cours de tennis. Quand on va au basket, effectivement, ça fonctionne. Donc, ce qui veut dire que, alors qu'on pourrait dire c'est un sport d'élite, c'est un sport professionnel, c'est quelque chose qui... La présence de ce sport, alors c'est pas du football, c'est peut-être une question qui pourrait être aussi évoquée, mais contribue à la massification de la pratique sportive au Mans au fait qu'on va vraiment avoir un mélange sociale et qu'on va vraiment avoir une très forte pratique. Et les mamans sont là et les papas parfois autour de dans les gradins de ces gymnases avec les enfants qui jouent. Donc il y a, c'est un facteur de lien social aussi. Donc je pense que les choses sont forcément un peu plus nuancées. Hein. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des villes et des territoires pour lesquels le choix qui a été fait de favoriser le sport de compétition, le sport de haut niveau, la présence d'un grand nombre de clubs professionnels peut nuire aux équipements pour tout le monde. Et je termine parce que on est dans le cœur du sujet. On parle beaucoup du centre aquatique pour les Jeux de 2024 à Paris. Le centre aquatique, tout le monde dit c'est formidable. En Seine-Saint-Denis, on va avoir plein de piscines. Ça va permettre à tous les gamins d'apprendre à nager. Je n'y crois pas du tout. La piscine olympique, tous les clubs de natation de la région parisienne, de Paris et de Seine-Saint-Denis, on veut nos horaires. Et tout le monde va se battre pour les créneaux, pour avoir ces lignes d'eau à peu près dégagées. Et ce n'est pas forcément ça qui va permettre un accès facilité aux enfants des milieux les plus défavorisés aux activités aquatiques.
Alors, on est à cette question des structures, puisqu'on voit que c'est sur l'ensemble du territoire, puisqu'on voit que ce sont des politiques locales, mais aussi des politiques nationales qui se mélangent avec des campagnes d'un côté, des promotions de l'autre. Et les pouvoirs publics se battent d'un côté pour les structures et de l'autre, on voit que l'histoire des représentations pèse encore, puisque voilà, il s'agit de basket et non de foot. Et qu'est-ce que ça aurait changé en termes justement de liens que d'instaurer du foot dans une région, des infrastructures, des stades ou des terrains de basket? Qu'est-ce que ça change?
Ça peut orienter fortement les choix de pratique et les possibilités de pratique. Ce que je rajouterais là-dessus, au regard de ce que vient de dire mon collègue, c'est que le fait de mener des politiques sportives locales n'est en aucun cas une obligation pour les élus locaux. Ça relève en France du volontarisme politique. Les collectivités territoriales n'ont pas de compétences obligatoires à construire des équipements sportifs, à soutenir les associations sportives, globalement, à offrir des conditions de pratique sportive. Lorsqu'elles le font, ça conditionne les possibilités d'orienter vers telle ou telle pratique et modalité de pratique, le sport loisir ou le sport de compétition, dès lors que le choix est fait de soutenir peut-être plutôt ou d'ouvrir les équipements sportifs à une pratique sportive essentiellement compétitive. Donc là, finalement, cela peut restreindre fortement les possibilités de pratique sportive pour la population et les habitants d'un territoire. Ce que l'on voit aussi, c'est que dès lors que nous sommes en période de raréfaction des finances publiques ou de difficultés financières...
C'est des budgets qui sont coupés.
C'est des budgets qui sont coupés parce que ce n'est pas une compétence obligatoire et c'est un secteur, le sport, que l'on qualifie régulièrement de résiduel. Voilà, on le développe quand il reste quelque chose en termes de ressources et de capacités financières pour les pouvoirs publics. Et la promotion et le développement du sport peuvent souffrir de ce caractère facultatif, en tout cas pour les compétences des collectivités territoriales.
Alors qu'au niveau national, il y a au moins 3 ministères qui s'intéressent aux questions du sport, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Il y a le ministère des Sports, il y a le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous diriez justement de cette différence entre les politiques locales, en tout cas le niveau d'intervention de l'échelle locale et celui de l'échelle nationale?
Alors, dans le meilleur des cas, l'intervention de l'échelle nationale et locale se complète dans la mesure où tout l'enjeu consiste pour les collectivités territoriales et l'État à mutualiser leurs financements pour que ces financements, dès lors qu'ils sont mutualisés ou conjoints ou croisés, puissent avoir localement des effets de levier, c'est-à-dire être efficace sur la promotion et le développement de la pratique sportive. Oui, il y a 3 ministères qui essaient ou se mobilisent pour promouvoir la pratique sportive. Vous avez cité le ministère des Sports et plus particulièrement la manière avec laquelle le ministère des Sports et le mouvement sportif, le Comité national olympique et sportif français, mobilisent les crédits du Centre national pour le développement développement du sport qui sont directement fléchés sur la promotion du sport pour le plus grand nombre, et notamment des publics qui aujourd'hui sont éloignés de la pratique sportive.
Au sens propre comme au sens figuré.
Oui, au sens propre comme au sens figuré, avec le lieu d'habitation aussi, quartier prioritaire de la ville ou zone de revitalisation rurale qui sont plus particulièrement ciblées par ces crédits. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, historiquement là aussi, puisque aux côtés des heures obligatoires que l'on a à l'école, au moins jusqu'à 16 ans, d'éducation physique et sportive, il y a la possibilité à l'école, au collège, au lycée et à l'université, de s'adonner à une pratique sportive volontaire dans le cadre des fédérations, l'Union nationale du sport scolaire, la Fédération française du sport universitaire, et depuis le début des années 80, un troisième ministère s'emploie à promouvoir le sport comme outil de socialisation et d'insertion sociale. C'est le ministère de la ville qui flèche son intervention, je l'ai dit tout à l'heure, sur les quartiers prioritaires de la ville, les quartiers en difficulté.
Alors il y a quand même un étonnement quand on voit qu'il y a ce volontarisme politique d'un côté, cette politique assez interventionniste, cette idéologie qui existe depuis un certain temps, que de mettre dans les quartiers difficiles des terrains de basket, des terrains de sport va permettre de recréer du lien, d'un tissu aussi associatif très implanté. Et pourtant, ce sont les mêmes qui ont accès au sport et il y a de fortes inégalités. Et ces inégalités, elles concernent aussi les femmes.
Elle concerne aussi les femmes.
Alors, de quoi est-ce qu'il est le miroir, le sport ?
Alors, le sport est le miroir de la société, voilà. Alors, ces inégalités concernent les femmes. Jacques de France et Thierry Théré le disaient lundi ici même. La tendance, en tout cas, le volontarisme est aussi à l'égalité de ce point de vue-là.
Donc, ça ne fonctionne pas.
Voilà, on n'y est pas. Encore, parce que il y a un effet de rattrapage, un retard historique de l'entrée des femmes dans la pratique sportive, et ce rattrapage n'est pas encore réalisé aujourd'hui. Les explications qui sont données pour justement expliquer que les femmes pratiquent moins que les hommes et de manière aussi moins intensive que les hommes, c'est généralement la double contrainte, travail domestique et travail professionnel. Cette double contrainte-là pèse plus sur les femmes et sur leur possibilité de pratique sportive que sur les hommes. Et il y a aussi, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui pourrait expliquer le fait que la pratique sportive des femmes est moins développée que celle des hommes, ce sont c'est l'offre locale, et notamment celle des associations sportives, dont on dit qu'elle est accessible au regard du coût de la licence sportive, mais pourtant les associations sportives aujourd'hui, ou en tout cas certaines d'entre elles, peuvent tarder à diversifier leur offre pour l'ouvrir aux femmes, puisque les associations sportives, en tout cas celles des sports olympiques, promeuvent d'abord une offre de sport compétitive, celle qui n'attire pas naturellement les femmes.
Alors, il y aurait des raisons sociologiques, oui. Des raisons culturelles, on le comprend, en tout cas des résidus. Et on va entendre Anne-Sophie Matisse justement nous parler de ces inégalités hommes-femmes.
Très inégalitaire, c'est un euphémisme, c'est-à-dire que ce soit sur l'accès aux pratiques sportives, que ce soit sur l'accès à tous les sports. Par exemple, le football, les femmes n'ont commencé à le pratiquer. Alors, il y a eu quelques équipes dans les années 20, mais sinon, elles n'ont commencé à le pratiquer à la fédération que dans les années 1970. Donc, c'est très récent. Donc, inégalité dans l'accès au sport, mais inégalité ensuite sur l'accès au terrain, sur les primes, sur l'accès au niveau. Et puis, inégalité aussi par rapport à la médiatisation. Alors là, le temps consacré aux femmes sportives dans les médias est très, très inégalitaire. On pourrait parler aussi de l'accès des femmes aux postes de dirigeants. On s'extasie encore en 2013 quand une femme, Isabelle Lamour, devient présidente d'une fédération sportive olympique, la fédération d'escrime. On trouve ça formidable. Et moi, je ne trouve pas ça formidable parce que les femmes, on les compte sur les doigts à peine des deux mains sur l'ensemble, sur les 110, 115 fédérations sportives. Ce qui a beaucoup posé problème, en fait, historiquement d'ailleurs, et encore actuellement, c'est la mise en jeu des corps. Bien sûr, le sport, c'est la mise en jeu du corps. Et il a été considéré comme inacceptable, non conforme aux normes morales, voire religieuses, à la décence, etc., que les femmes se donnent à voir dans l'effort, donc avec des grimaces, en sueur, tombant, exténuées au terme d'une course de longue distance, alors a fortiori, donc sur des disciplines où on est dans des corps à corps, des affrontements, comme par exemple dans le rugby. Hein, le rugby est quand même un sport d'affrontement. Le football aussi, qui est une métaphore quand même de la guerre, de l'affrontement de deux camps, donc avec des chocs. Les boxes, bien évidemment, ou bien le cyclisme. Hein, c'est un grand champion français qui disait un jour à Jeannie Longo, sur un vélo, vous êtes moche. Ce à quoi elle avait répondu, et avec un balèze, que je suis jolie, j'aime beaucoup cette répartie.
Jean-Pascal Gaillant, derrière les questions justement sociologiques qui ont été évoquées, il y a aussi des questions d'économie politique. Et on voit que la libéralisation, elle est intervenue en matière économique, mais pas tellement en matière politique.
Alors, j'aimerais juste revenir un instant sur l'inégalité de la pratique du sport entre les hommes et les femmes, parce qu'il y a quand même aussi des choses qui finalement sont un peu inattendues. On parlait du football féminin qui n'a été pratiqué que très tard, mais en réalité, aujourd'hui, le football féminin, c'est un des facteurs d'accès au sport dans un grand nombre de pays du monde, absolument formidable. C'est un espoir, le football féminin, qui se développe très vite, de permettre la pratique du sport pour des femmes qui ne pratiquent aucun sport et qui étaient peut-être vouées à n'en pratiquer jamais. Donc, moi, je suis ravi qu'on ait une équipe de France féminine qui soit de très bon niveau, qu'on organise la Coupe du Monde de football féminin et qu'il y ait un vrai développement de ce sport, parce que c'est un sport qui progresse et qui amène pour des tas de raisons, peut-être plus facilement, des jeunes filles sur les terrains de sport dans un certain nombre d'endroits. Donc moi, je crois beaucoup à la contribution du football féminin, et en commençant par l'exemple, c'est toujours comme ça, l'exemple des filles du plus haut niveau, de l'élite, qui vont aider à ce développement. Donc moi, je trouve que le football féminin, effectivement, on y est arrivé tard, mais pour les raisons qui ont été rappelées, hein, c'est vrai que l'image de la femme dans l'effort, même le marathon, ça fait pas longtemps que les femmes ont le droit de participer au marathon.
Et, alors, sur les questions d'économie politique, oui. Il y a l'accès au sport, il y a l'accès au terrain, oui. Il y a l'accès aux primes.
Oui, alors les primes sont...
Il y a des questions économiques
dans pures. Certains sports identiques et dans certains sports pas du tout identiques. Oui. Alors, hein, on le sait, le tennis a fait le choix d'avoir des prize money qui sont identiques, le golf c'est pratiquement le cas, l'athlétisme aussi. Et puis il y a des sports où, alors là, la question ne se pose pas, c'est un rapport de 1 à 100 dans les rémunérations, justement le football professionnel. Alors, la question, elle est, c'est un spectacle sportif, c'est un bien commercial. Il dépend beaucoup de la loi et de l'offre et de la demande. Et en effet, la demande de football télévisuel ou de football dans les stades n'est pas la même qu'il s'agisse du football masculin et du football féminin. Je suis obligé de dire qu'il y a un seul sport où quasiment les rétributions des femmes sont plus importantes que celles des hommes, c'est le beach volley. Alors, quand on analyse les raisons pour lesquelles nous sommes là-dedans, c'est pas forcément très glorieux. Voilà. Donc, il faut trouver un compromis entre deux exigences. L'exigence du marché, il faut répondre à ce qu'est la demande, ce qu'est l'intensité de la demande. Et puis la volonté qui est alors louable, mais j'aime pas utiliser, je trouve ça très normatif. Donc dont certains estiment qu'elle est louable, d'aller vers une plus grande égalité salariale. Dans le tennis, ça existe, mais il y a des joueurs de tennis qui ont fait remarquer que, ah oui, mais le tennis féminin, on va jouer en 3-7, le tennis masculin en 5-7. Donc c'est finalement une certaine inégalité que le prix du vainqueur de Roland-Garros femme soit le même que celui du vainqueur de Roland-Garros homme, parce que le spectacle n'est pas comparable, et même on n'a pas les mêmes formats. Donc c'est très compliqué. On peut avoir des circonstances où, dans le ski par exemple, non pas l'année dernière mais l'année d'avant, celle qui avait accumulé le plus de gains, c'était Lindsey Vonn, elle avait plus de gains que le meilleur skieur masculin, qui était un inconnu du grand public, même si c'était le meilleur skieur du monde, parce qu'évidemment, elle avait gagné pour un prize money qui est à peu près identique. Hein, on a parfois la circonstance où c'est la femme qui gagne plus que l'homme. Donc, je trouve que c'est un sujet extrêmement compliqué, mais de toute façon, dès lors qu'on est dans le spectacle du sport professionnel, il me semble qu'on ne on ne s'affranchira jamais complètement des lois du marché. Et les lois du marché...
En espérant qu'elles deviennent un petit peu moins inégalitaires, toujours dans le même sens, quoi.
Il est très difficile de restaurer une égalité... Parce que les mécanismes, d'abord, quels seront les critères qui sont, mais ça, moi, je suis incapable de les définir. Et on peut aussi arriver dans quelque chose qui est, à certains égards, également, alors peut-être pas inégalitaire en termes de prix, mais qui est inéquitable en matière de ce qui est versé. Parce que si on fait pour du sur un sport, qu'il soit masculin ou féminin, mais où il y a moins d'épreuves, où il y a moins de rivalité compétitive, etc., il n'est pas sûr que l'équité soit que les salaires ou les primes soient absolument identiques. Je pense que...
Et en même temps, l'équité n'est pas totalement au centre du capitalisme.
Oui, oui, bien sûr, mais nous sommes tout à fait d'accord. Non, mais nous revenons sur l'idée que le spectacle du sport professionnel est un sport, c'est un bien privé ou un bien commercial, et que ben, ce sont ces lois de l'offre et de la demande qui sont quand même déterminantes.
Taxi, taxi, taxi. Oh, taxi. Oh, enfoiré, putain. Oh non, le bus, le bus. Mais attendez! Attendez! Je vais pas rentrer à pied quand même.
J'ai grossi, j'ai de la cellulite. Faut que je ressuscite, mais je suis pas très motivé. J'ai bien trop peur des fractures, je suis plus vraiment filiforme. Je pourrais faire un infarctus en jouant au mini-golf.
Il est où ton jogging?
J'aurais bien aimé pratiquer la capoeira. Le vélo sans les mains, mais le sport et moi ça fait 3. Vu qu'en EPS je n'avais pas la moyenne, je ne pourrais jamais surfer de vagues hawaïennes. Au foot à la récré j'étais le déchet de l'équipe. J'étais celui qu'on choisissait en dernier juste après les filles. On m'appelait le défenseur, je massacrais les attaquants. En les taclant, on massacrait meilleur buteur contre son plan. J'étais une calamité sur le terrain, et ce bien avant de teaser et de fumer des joints. J'ai toujours eu du mal à courir en serrant les poings, donc au relais je faisais souvent tomber le témoin. Au ping-pong je perdais tous les matchs, à la suite je commençais table 1, je finissais à la 8. À l'équitation j'aimais juste les balades, je n'ai jamais atteint le sommet des murs d'escalade. J'ai fait du basket aussi, au bout d'une année j'ai bien failli réussir à mettre un panier. À la natation j'aimais faire de l'apnée, plonger comme un con, aller sous l'eau pour mater. Au judo j'avais pas d'amis, mais je racontais ma vie immobilisé sur le tatami. Même au jeu de sport sur mon Atari j'étais tout moisi, je me suis fait un hématome en jouant à la 8.
Elle est pas froide, je te dis, elle est pas froide.
La boxe, trop hétéro pour la lutte, trop fragile pour le rugby et trop frileux pour la luge, trop mou pour la course, trop lent pour l'escrime, debout sur la poutre à la gym, j'avais le vertige, au moindre effort physique, j'ai des courbatures, faudrait que j'arrête de rester caché sous ma couverture, on me verra jamais au JO courir à toute allure, à part en live pendant la cérémonie d'ouverture.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Par Maïlys Bessery.
De façon générale, le circuit économique est de plus en plus segmenté, il y a de plus en plus d'acteurs, d'intermédiaires, on le voit sur tous les marchés du sport, avec des agences, des intermédiaires plus ou moins officiels. Mais de façon générale, il y a vraiment une socialisation des coûts, notamment lorsqu'on accueille de grands événements, et une privatisation des bénéfices. Le budget d'investissement est pris en charge par l'État, en fait, suivant l'événement, si c'est une Coupe du Monde, par éventuellement même, si on prend l'exemple des Jeux Olympiques d'Athènes, l'Union Européenne a financé grandement l'État grec, etc., les différentes collectivités. Donc c'est le contribuable européen, grec, athénien, donc qui a participé au financement. Et d'autre côté, les top sponsors ou toutes les firmes qui participent donc à l'organisation de l'événement ont évidemment récupéré des bénéfices sur leur mise de fonds. On peut prendre notre exemple français. L'Olympique de Lyon, c'est tout à fait intéressant. Côté en bourse, donc qui a fait l'objet de plusieurs sanctions du tribunal administratif de Lyon avec la ville de Lyon, dans la mesure où il y avait une mise à disposition à titre gracieux des installations qui appartient à la ville de Lyon, alors que par ailleurs, depuis 5 ans, l'Olympique de Lyon distribue des bénéfices. Là, on est l'exemple typique de socialisation des coûts, le contribuable donc supportant l'investissement et le coût de fonctionnement du stade, et les actionnaires de l'Olympique de Lyon récupérant des bénéfices. Ça me paraît un mélange d'argent privé et argent public qui est tout à fait contestable, et la Cour des comptes va d'ailleurs publier un rapport et des recommandations au mois de février 2008 sur ces questions-là.
Marina Honta, ce que dit Jean-François Bourg, chercheur au Centre de droit et d'économie du sport à l'Université de Limoges, mérite quelques explications. Alors, il y a une socialisation des coûts et finalement une privatisation aussi, un mélange en tout cas, entre l'argent public et l'argent privé en ce qui concerne les infrastructures sportives. Expliquez-nous ce point.
Oui, au travers de ce que l'on qualifie aujourd'hui les partenariats publics-privés, alors il en existe de plusieurs types, on ne va pas rentrer dans les détails, je ne suis pas juriste par ailleurs.
Prenons un exemple, les Jeux Olympiques, ou l'Euro de football, ou un événement sportif international.
Alors,
ou national d'ailleurs.
Les partenariats publics-privés auxquels je fais référence sont plutôt mobilisés pour la construction des grandes infrastructures sportives qui servent notamment à accueillir l'Euro 2016, les futurs Jeux Olympiques, peu importe. Consistent à partager les coûts entre la puissance publique et un ou plusieurs partenaires privés qui se voient confier la construction, bien évidemment, et parfois la gestion de cet équipement sportif sur la durée. Bien que, au final, il appartiendra à la collectivité publique. Alors, il y a beaucoup à dire sur ces partenariats publics-privés. Ce que l'on peut en dire, c'est que les conditions de leur stabilité ou les risques que prennent les collectivités territoriales ou la puissance publique sont parfois nombreux. Ça peut leur coûter beaucoup plus cher finalement de passer ainsi par un partenariat public-privé, mais mon collègue le dira bien mieux que moi. En tout cas, aujourd'hui, ces partenariats publics-privés, ils me paraissent être accélérateurs de réalisation. Et ils peuvent se traduire aussi par le fait que certaines entreprises peuvent négocier le fait de donner leur nom à l'équipement sportif qui aura été construit avec leur subside. Il en existe aujourd'hui des équipements sportifs de plus en plus nombreux qui sont nommés par le nom de la firme qui a participé à leur construction.
Jean-Pascal Gaillan, on va revenir sur ce point qui est un peu au cœur de votre analyse sur la question du spectacle sportif. À savoir, il y a des spectacles sportifs qui sont à valeur économique importante et à utilité sociale moins importante, et l'inverse.
Oui, alors, bon, juste un point sur les partenariats publics-privés. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la question, quel doit être le financement, ou ne doit-il pas être, tout simplement.
Que doit financer l'État?
Voilà, ou l'État, ou les collectivités.
Donc,
le système, le format des PPP, les partenariats publics-privés, s'est avéré assez mauvais. Je crois que tout le monde en convient maintenant, et on l'abandonne petit à petit. Mais en revanche, il y a toujours une part de financement public dans ces grandes infrastructures, en particulier les stades de foot, les stades de rugby.
Alors
qu'ils accueillent des événements de l'ordre du domaine privé. Voilà. Alors, il y a néanmoins, à mes yeux, une justification à une part de financement public. Je ne dis pas 100% de financement public. Il se passe la chose suivante, c'est qu'on va petit à petit vers un modèle plus américain. Le sport professionnel aux États-Unis, là, c'est vraiment un pur bien privé. Ce sont des ligues avec un commissionnaire, des franchises. Il faut payer pour être le propriétaire d'une franchise. Et c'est un business, point. Des marques. Les ligues sont, les franchises sont susceptibles de se délocaliser. Hein, c'est arrivé à plusieurs reprises. À New York, il y avait 3 clubs de baseball. Il y en a 2 qui sont partis, un pour Los Angeles, un pour San Francisco, parce qu'il fallait occuper le territoire, avoir une meilleure, optimiser la possibilité d'avoir des marchés où on n'avait pas encore des grandes équipes de baseball. Donc on peut se délocaliser. Et récemment, une équipe de San Francisco est parti à Las Vegas en football américain.
Donc on est dans un système de multinationales.
C'est un système, oui, et puis c'est complètement invraisemblable à nos yeux, parce que, et c'est bien le point français-européen, nous sommes dans un système pyramidal de ligues ouvertes, et il y a un attachement très fort des gens de chaque territoire à leur club de foot, à leur club de rugby, à leur club de basket. Et il me semble, moi, que cet aspect-là, on ne peut pas le balayer d'un revers de main, et cet attachement, et j'ai envie de dire, le fait qu'aujourd'hui les clubs de sport professionnels participent à la légitimation du territoire sur lequel les gens sont des citoyens et payent des impôts et acceptent de partager des ressources et des dépenses communes.
Donc recréer des liens aussi entre les citoyens et leur territoire.
Oui, c'est ça. Eh bien, fait que, à mon sens, il doit y avoir une part quand même de financement public dans ces grandes infrastructures. Alors, ce qui se passe, en fait, en réalité, aujourd'hui, c'est que les grands clubs de sport, de football en particulier, cherchent à n'avoir que des stades privés et à être complètement maîtres de ce qui est fait, sans avoir de compte à rendre à la puissance publique, aux collectivités. Finalement, cela pourrait être pire. Donc, moi, je suis assez partisan d'un modèle équilibré, avec à la fois un financement privé, mais aussi un financement public, pour conserver le système européen, qui est un système avec la espèce d'égalité d'accès territorial devant au spectacle sportif du plus haut niveau, hein, par ces systèmes de promotion-relégation, et le fait que finalement les clubs sont un peu les obligés de leur territoire. C'est compliqué.
On pourrait quand même se méfier de certaines externalités négatives de ces spectacles payés en partie par les pouvoirs publics et qui accueillent ensuite des biens privés. On va entendre Vladimir Andreev, qui était notre invité hier, s'exprimer dans l'émission Culture Monde.
De quoi se compose le budget, donc le coût des jeux? Donc il faut distinguer trois rubriques, si je puis dire. Il y a d'abord les dépenses du comité d'organisation londonien, dans le cas d'espèce. Deuxièmement, il y a le coût des équipements olympiques, c'est-à-dire des équipements sportifs, qui est un élément non négociable dans les dossiers de candidature. Parce que si vous construisez pas la piscine, vous pouvez pas faire de natation, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, il y a un troisième élément dans l'évaluation économique du coût des Jeux Olympiques, que ce soit à Londres ou ailleurs, qui est l'ensemble des infrastructures non sportives. C'est-à-dire le train, le métro allongé, ou etc. Ou le TGV qui va à Albertville en 92. Mais la règle générale, c'est que les plus gros dépassements se font sur les infrastructures non sportives.
Alors, les infrastructures sportives et non sportives, il faut payer pour tout ça?
Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis pas un fan des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Enfin, vous le savez peut-être. Mais bon, maintenant, nous les avons. Il faudra surtout limiter le coût. Il y a un conflit à tout moment. Hein. Ce qui est très important, c'est qu'effectivement,
on est... C'est une question d'économie politique.
C'est une question
et de modèle.
Et c'est voilà. Et il faut être très très attentif. Il faut surtout que les citoyens puissent exprimer ce qu'est leur désir. Est-ce que l'on veut vraiment telle ou telle manifestation sportive? Est-ce qu'on est vraiment désireux de payer pour cela? C'est une question complexe. Hein. Et puis c'est difficile d'obtenir une évaluation de ce que veulent les citoyens. C'est toujours des problèmes de référendum ou ce problème du vote en général. Mais il y a le plus grand risque, me semble-t-il, c'est que sur la base d'un projet qui va être vendu comme étant c'est un formidable événement dont tout le monde va bénéficier avec plein d'éléments positifs, de fierté nationale, d'estime de soi, eh bien on a effectivement des acteurs privés qui vont, on va dire, abuser de la présence de la manifestation pour en tirer le plus grand profit personnel. Et souvent, effectivement, on en arrive à ce que vous avez dit. Il y a la mutualisation des coûts et la privatisation des bénéfices. Hein.
Marina Honta, il y a aussi un risque plus important peut-être, qui est celui aussi de véhiculer une idéologie un peu inégalitaire, à savoir promouvoir certains modèles qui sont économiquement rentables et qui le sont peu pour les liens sociaux, et de l'autre, s'intéresser de moins près à des spectacles amateurs, sportifs, qui eux sont créateurs d'un lien social très important, on le sait, on connaît les bénéfices des championnats à un niveau local notamment.
Oui, et ces arbitrages se posent constamment et il se pose aussi au sein même du sport professionnel et du spectacle sportif, puisqu'on parlait de ça juste à l'instant. Je voudrais ajouter un mot. Il y a eu au moins deux moments dans la période récente où la question suivante, est-ce que les collectivités territoriales doivent continuer à soutenir le sport-spectacle et notamment le sport professionnel, s'est posée. Et dit autrement, est-ce que finalement, il n'appartient pas à la puissance publique que de promouvoir le sport pour le plus grand nombre et de laisser tout ce qui est sport-spectacle et sport professionnel à d'autres modes de régulation, régulation de marché. Très très vite, lorsqu'il s'est agi, il y a eu un débat au Sénat il n'y a pas très très longtemps, lorsqu'elle était ministre des Sports, Marie-Georges Buffet a réinstauré l'autorisation pour les collectivités territoriales de soutenir les clubs professionnels, puisque au sein même du monde professionnel, il y a plusieurs mondes. Les modalités ou la puissance économique du football, de la Ligue 1 de football, ne ressemble en rien à d'autres volets du sport professionnel français, et notamment tous les sports professionnels en salle, le volet, le handball, le basket, et si il fallait aller plus loin, au sport professionnel féminin qui existe en France parce que il est largement soutenu et sous dépendance des finances publiques. Si aujourd'hui, du jour au lendemain, on retirait ces financements publics du sport professionnel féminin, mais aussi du volley, du basket du handball masculin et féminin, il n'y aurait pas grand-chose à parier sur les chances de compétitivité de ces équipes françaises à l'échelle européenne. Voilà. Donc, au sein même des mondes du sport professionnel, le sport pour tous, il y a des réalités très, très disparates et hétérogènes en fonction des disciplines sportives qui impliquent toujours des arbitrages politiques, des choix politiques et qui ne sont jamais... jamais simple, cela ne se résume pas à la puissance publique pour le sport pour le plus grand nombre et les financements privés pour le sport professionnel. Ce n'est pas si simple que ça, loin s'en faut.
D'autant plus que les politiques économiques ont dû s'adapter aussi au modèle sportif qui lui-même s'est adapté aux nouvelles contraintes économiques internationales.
Oui, on est dans un contexte où effectivement le système finalement échappe de plus en plus à ce que les pouvoirs publics nationaux peuvent réguler. Donc effectivement, et au niveau européen, on est dans des contradictions qui sont vraiment complexes, parce que la dernière décision de la commissaire à la concurrence va sans doute encore accentuer le phénomène de libéralisation totale du spectacle sportif professionnel, comme il y a eu l'arrêt Bosman en 95, le dernier arrêt sur les deux skieurs de vitesse peut complètement encore faire exploser ce marché, ces marchés dérégulés et de manière ultra libéralisée. C'est très complexe. Il y a une vraie réflexion à mener et surtout dire que nous devons trouver des moyens au niveau mondial, alors européen au moins, et peut-être même au niveau mondial, pour réguler un petit peu, comme dans bien d'autres domaines. Ça va nécessiter un travail considérable des ministres des sports et finalement, il faudrait une espèce de grande conférence mondiale sur cette question qui, souvent, est considérée comme une question secondaire, annexe, pas très noble, mais en réalité, c'est une question essentielle.
Sauf que tout comme les questions économiques, les questions sportives se sont immiscées dans tout un tas de ministères, les dossiers sont un peu essaimés, c'est ce que vous nous expliquiez, Marina Honta.
Oui, et puis pour rebondir là aussi, Laura Flessel, comme l'ensemble des ministres aujourd'hui, sont amenés à réfléchir au périmètre d'intervention de l'État dans chaque ministère. Et Laura Flessel a engagé, on aura les résultats de ces réflexions dans les mois et les semaines qui arrivent, a engagé une réflexion sur quelle devra être demain la place de l'État dans l'organisation du sport, dans la gouvernance du sport, comme on le dit. Cette intervention de l'État français devra-t-elle être circonscrite? Si oui, limitée à quel aspect du financement du sport? Si tel est le cas, qu'est-ce qui pourra être confié aux collectivités territoriales et au secteur marchand dans un contexte où, en tout cas, le périmètre de l'intervention des ministères et de l'État en France est une question qui se pose pour l'ensemble des secteurs d'intervention publique et parmi eux le sport.
La chronique des nouvelles de l'Écho, Mounia Van de Castel, bonjour.
Bonjour Maïlys, bonjour à tous.
Le sport du jour.
Bien figurez-vous que c'est la boxe qui a le vent en poupe chez les cadres, d'après le magazine Capital. Globalement, les sports de combat seraient pratiqués par 1 800 000 Français, 50% seraient des CSP+, et 42% seraient des femmes. Alors cet engouement s'expliquerait par les bénéfices d'un tel sport, qui est très complet. Ça fait travailler les bras, les jambes, le cardio, mais cela nécessite également une bonne concentration pour éviter les coups. Du coup, cela avirait comme une forme de méditation et aussi de défouloir permettant de décharger son stress et son agressivité dans un cadre contrôlé afin de ne pas les faire ressortir au travail.
Alors, outre les effets de mode, qu'est-ce qu'on peut dire des ressorts socio-économiques profonds justement de cette activité de la boxe ?
Alors, vous m'en demandez beaucoup. Hein. Je pense que je vais plutôt vous parler d'un autre sport de combat qui a le vent en poupe en ce début d'année, et ce sont les soldes. Concernant la catégorie socio-professionnelle dominante de ses adeptes, disons qu'il s'agit d'un sport qui touche les différentes classes avec une certaine homogénéité. La compétition biannuelle a débuté le 10 janvier en France pour 6 semaines, et elle sera certainement la dernière à durer aussi longtemps, car le gouvernement veut réduire cette période à 4 semaines en 2019. L'objectif étant de focaliser l'attention et l'énergie et de rendre ces jeux populaires, je cite, plus lisibles auprès du grand public. L'idée du gouvernement est de passer à 2 fois 4 semaines au lieu de 2 fois 6 semaines, mais en restant dans les mêmes périodes.
C'est ce qui ressort d'une consultation populaire.
Oui, en effet, cette décision intervient après une consultation des commerçants qui a été conduite par la commission de concertation du commerce et a conclu que les commerçants étaient très attachés au maintien de 2 périodes de soldes en renforçant leur caractère national. En revanche, aucune date de démarrage ne fait l'unanimité à choisir. Certains commerçants auraient préféré les avancer dès le lendemain de Noël, le 26 décembre, quand d'autres auraient préféré les reporter en toute fin de saison. Ce sont donc 2 visions irréconciliables qui n'ont pas permis de trouver une solution plus optimale au sens de Pareto que la situation actuelle, l'optimum de Pareto étant un équilibre qui ne permet pas d'améliorer la situation d'un individu sans dégrader celle d'au moins un autre.
Alors pourquoi 2 périodes ? Est-ce que 2 périodes suffisent ?
Eh bien, malgré les démarques qui s'enchaînent tout au long de l'année, du côté de Bercy, on estime que le fait d'avoir 2 périodes dans l'année, un petit mois pendant lesquels les commerçants peuvent vendre à perte, c'est une régulation qui est encore utile aujourd'hui. Cette évolution des soldes doit donc être intégrée au projet de loi dit Pacte qui sera présenté au printemps par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. En revanche, Bernard Morvan, qui est à la tête de la Fédération de l'habillement, salue la décision de réduire la période de soldes, mais prône 4 rendez-vous par an seulement, sans autre promotion durant l'année.
I say white,
you say bar,
I say bite,
you say shark,
I say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars,
you say Rose,
I say Royce,
you say God,
give me a choice,
you say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman,
all I wanna do is
Bicycle Race. Merci Marina Honta et Jean-Pascal Gaillard, merci Bouchou Gaillant d'être venus aujourd'hui. Marina Honta, votre livre s'intitule « Gouverner le sport, action publique et territoire » aux presses universitaires de Grenoble. Un article est également à paraître dans les prochaines semaines dans la revue française d'administration publique. Il est intitulé « L'accès de tous à la pratique sportive, l'état local en action ». Quant à vous, Jean-Pascal Gaillant, votre ouvrage s'appelle « L'économie du sport ». Il est publié chez Dunod et on peut aussi vous lire sur votre blog dédié à l'économie du sport.
sport sur lemonde.fr. Vous pouvez réécouter nos programmes sur le site franceculture.fr et bien sûr vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter @mbesri, hashtag entendez-vous l'écho. On se retrouve demain pour le débat de la semaine consacré à la civilisation du sport.